Ce qui définirait l'entité Israël comme les membres d'une congrégation religieuse, de la Torah du Sinaï. Et ce qui définit l'identité Israël comme une nation à partir d'Abraham. Et nous avons beau avoir les mêmes textes, la lecture est radicalement différente. Et ça ne peut pas être le cas de deux lectures, toutes les deux authentiques, parce que l'une exclut l'autre. Et d'où vient que la lecture est différente ? Alors que les mêmes textes sont écrits, eh bien, ça vient de l'identité profonde du lecteur. Je crois que c'est clair. Vous voyez pourquoi il y a de quoi être inquiet quant au risque d'une cassure analogue à celle du temps de la sortie des eaux. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Et moi, ce qui m'étonne, c'est précisément cette incapacité de lire la Bible en hébreu. Et on y projette une espèce de lecture confessionnelle, religieuse dans le sens occidental d'ailleurs, qui la fausse complètement. Et quand je vais essayer d'être un petit peu plus schématique dans mon vocabulaire, et quand je dis lire la Bible en hébreu, c'est pas l'hébreu pieux des prières, c'est autre chose, l'hébreu pieux du Talmud Torah confessionnel. C'est l'hébreu de la nation hébraïque. C'est une langue nationale, d'abord, avant d'être une langue pieuse. Parce que cet hébreu de langue pieuse, on peut lui faire dire n'importe quoi, genre latin de cuisine. D'ailleurs, cuisine, l'hébreu de la cache-route. Et ça cache la route. Donc, alors, on revient à notre problème. Voilà donc ce que dit le verset. « Vayehi beshalach paro et ha'am » et il arriva. Lorsque le pharaon eut expulsé le peuple, shalach, renvoyé. Okay. C'est pas laisser partir, c'est quitte-moi, parce que tu es une malédiction. J'ai cru que tu étais une bénédiction, mais tu deviens une malédiction. C'est arrivé jusqu'à la mort des premiers-nés. Alors dans cette panique-là, le pharaon expulse le peuple qui ne voulait pas laisser sortir. Pendant toute une première phase, le pharaon sait quel porteur de bénédiction sont les Hébreux en Égypte. Et il ne peut pas laisser partir cela. Quelque chose de très très analogue, chaque fois que le temps de partir d'une civilisation arrive, et où apparaît ce paradoxe que la civilisation en question, d'une part, ne supporte pas cet embryon qui est devenu parasite à une certaine hauteur, comme l'embryon est parasite dans le sein de sa mère. Mais à un certain stade, lorsque l'accouchement est refusé, alors l'embryon devient parasite, vraiment. Et il empoisonne sa mère, qui empoisonne l'embryon, et puis il arrive toutes les catastrophes que nous connaissons. Okay? Quand les juifs empoisonnent les goïms, qui empoisonnent les juifs, qui empoisonnent les goïms, qui empoisonnent les juifs. Bon. Vous voyez à peu près comment l'image continue. Qu'est-ce que je disais ? Juste avant. Oui, pendant une première partie, le pharaon ne veut pas laisser partir le peuple. C'est très analogue à ce qui se passe chaque fois que le temps est venu de sortir d'Égypte. Et je pense encore à ce qui se passe en Russie. Les Russes ne veulent pas laisser sortir les Juifs. Et quels que soient les arguments qu'ils donnent, ça revient aux arguments du pharaon. Je ne veux pas perdre mon âme. C'est les porteurs de bénédiction, ça coûte trop cher, payez si vous les voulez. Mais c'est l'avenir de l'Égypte, c'était où passera l'identité hébraïque. Je me suis mal exprimé, mais vous avez compris l'idée. Comme si les antisémites qui ne supportent pas leurs juifs, en même temps ne veulent pas les laisser partir parce qu'ils craignent de disparaître avec ce départ. Ou si vous voulez, cette marâtre qui ne veut pas accoucher de son fils parce qu'elle craint de mourir en couche. Alors, elle ne laisse pas accoucher, mais elle sait très bien que si elle en accouche pas, elle mourra quand même. Mais comme elle a peur de mourir en couche, elle préfère mourir empoisonnée. Okay. Vous voyez comme les choses sont graves. Et de toute façon, elle va mourir, la pauvre. Et c'est ce qui se passe à chaque péripétie dont le modèle est ce récit. Alors, finalement, le pharaon affolé des plaies, en fin de compte, pris de panique, les premiers-nés d'Égypte ont été frappés, alors il expulse le peuple. Et puisque c'est arrivé comme ça, dit la Torah, Vaï, Béchalach, Paro et Aham, quand c'est arrivé cela, que c'est le pharaon qui a dû expulser le peuple, c'est le signe que ce peuple n'était pas prêt à sortir de lui-même. Et que par conséquent, il doit passer par un stage de raffinement, si j'ose dire. Est-ce que c'est clair? Le Midrash nous a dévoilé la structure du texte. C'est pas tout le peuple, c'est une partie. Et à partir de cette une partie, on sait qu'il y a cinq parties différentes de cinq niveaux différents. Ça y est, c'est clair? Okay. Bon. Dieu ne les a pas dirigés par le chemin du pays des Philistins, qui carobrou, parce qu'il est trop proche de l'Égypte. C'est une première lecture. Si nous avons le temps, nous reviendrons sur d'autres lectures. Qui amar Elokim, car Dieu a dit, de peur que le peuple ne regrette. Et nous savons déjà qu'il y a allusion là à la deuxième partie du peuple. Inachem ne regrette. Birotam bilchama, lorsqu'ils verront la guerre. Veshavu Mitzrayma, et qu'il ne retourne en Égypte. Par conséquent, il faut les mettre à l'abri pendant 40 ans dans un petit stage de Harshara Benoni. Et on arrive à notre verset, verset 18. Vayase Elokim et Aham, la troisième partie du peuple, la troisième fois que le mot Aham est là. Vayase Elokim et Aham, Derech Hamidvar Yamsou. Et Dieu fit contourner le peuple par le chemin du désert, la mer Rouge. On va s'arrêter là, parce que c'est là que commence notre Midrash. Vous prenez maintenant ces feuilles-là. Vous suivez avec un crayon pour souligner les articulations du texte. Alors, quel sera le sujet? La raison pour laquelle il fallait passer par le passage de la mer Rouge. Alors, retenons le principe général de tout à l'heure. A priori, ce n'était pas nécessaire. A posteriori, il se dévoile que c'est très important. Que s'est-il passé entre-temps? Entre-temps, il s'est dévoilé que l'immense majorité du peuple n'est pas prête au voyage. La première partie lui a été imposée et il risque de renoncer devant les difficultés de la deuxième partie. Vous savez, il y a, à propos de ce thème, de nouveau, cette structure des quatre qui sont cinq qui apparaîtra toujours. Et rappelez-vous le texte que je vous ai donné à lire tout à l'heure. Lisez-le pour demain ou après-demain. Non, pour demain, puisque après-demain, c'est Shabbat. C'est ceci, le chapitre 6, Vaera, le chapitre 6 de l'Exode, où la motivation de la sortie d'Égypte est donnée de façon très claire, pour accomplir la promesse faite aux ancêtres de quitter l'exil et de revenir au pays de la promesse, c'est-à-dire en Eretz Israël. C'est là que vous verrez qu'il y a la structure des quatre termes de la délivrance, plus un cinquième, à quoi correspond dans la Haggadah de Pessah, les quatre verres de vin, plus le cinquième, dont je vous parlerai... qui vient d'être institué il y a quelques années en Israël, et dont je vous parlerai par la suite. Alors, lisons le texte. Vayi Beshalar Paro et Aham, et il arriva, lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple, Vayase Velokim et Aham Derech Hamidbar Yamsou. On arrive à l'expression qu'on a lue tout à l'heure, et Dieu fit contourner le peuple par le chemin du désert par la mer Rouge. Derer, Amidvar, Yamsou. Et ce sont ces trois termes que le Midrash va étudier. Derer, Amidvar, Yamsou. Derer, le chemin. Amidvar, le désert. Yamsou, la mer Rouge. Voilà, alors on y va. Ma Mechilta, là vous soulignez, Mechilta c'est la référence du Midrash. Dans la Mechilta, première opinion, l'opinion de Rabbi Eliezer. Vous mettrez ça en plan. Rabbi Eliezer, première opinion. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Derech, pourquoi chemin, qu'aider les Yagéam, pour les fatiguer. Mettez la traduction, après on étudiera. Kemo Deat Omer, et il cite un verset, Epsom, où on voit qu'effectivement le chemin, c'est pour fatiguer. Le verset dit, Inna baderer kochi. Il a amoindri ma force par le chemin. Les voyages, ça fatigue. Ça, je peux vous dire. Donc, pourquoi le mot chemin? Voyage, première réponse. Dans le système de Rabbi Eliezer, Première réponse sur derrière pour les fatiguer. Et il y a un verset à l'appui. Bon. Hamidbar, le désert, les tsarfam. Les tsarev, ça veut dire. Affiner, les tsarev. Tsirouf, ça peut avoir ce sens. Mais les tsarev, c'est comme un bijoutier qui prend un métal où il y a des scories, qui le fait passer par le feu pour enlever les scories, les tsarev. Tsorev, c'est un orfèvre. Tsorfout, l'orfèvrerie. Okay? Les. Hein? Les affiner. Les, comment vous appelez en français? Il y a un mot en français. Les faire passer au creuset. Oui. Chenehemar, Amolichacha Bamidbar Agadol Vernora. Dieu qui t'a fait, qui t'a dirigé dans ce désert grand et terrible, les Maran Nasotecha afin de t'éprouver. C'est la suite du verset. Et donc, première étape, derrière pour les fatiguer. Deuxième étape, midbar, le désert pour les. Il y a un mot français plus précis. Il m'échappe. Hein? Pour les affiner, mais. Épurer, voilà. Avec force, par le feu. Okay? Ensuite, Yamsouf, la mer rouge, les nasotam, pour les éprouver. Chenehemar va Yamrou, Aliam et Yamsouf. Puisqu'un autre verset nous dit, et ils se sont révoltés sur la mer. Révoltés dans ces quatre manières de révolte que nous avons eues hier. Oui. Alors, le système de Rabbi Eliezer, il y a trois niveaux correspondant à ces trois mots. Pourquoi ce chemin-là? Premièrement, le chemin pour les fatigués. Deuxièmement, le désert pour les épurer. Troisièmement, la mer rouge pour les éprouver. Deuxième système d'explication sur les mêmes trois mots, Rabbi Yoshua. Alors vous soulignez Rabbi Yoshua, et nous allons voir parallèlement trois explications. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, derer, chemin, ça c'est pour leur donner la Torah. Kedeliken laem a Torah, sheneemar, mikola derer asher tziva asher. Parce que pour dire la Torah comme enseignement, le texte se sert souvent du mot derer, la voie à suivre, V-O-I-E. Okay? Derer, c'est Torah. Vous voyez, un deuxième système radicalement différent. Derer, c'est Torah. Et effectivement, nous avons beaucoup de versets. Je reviendrai sur les explications de détails après avec le Maharal, où la Torah s'appelle Derer. Hamidvar, le désert, Kedeliten lahem aman. C'est pour leur donner la manne. Chenehemar, d'après un verset qui dit, Amachilcha man bamidvar, Dieu qui t'a fait manger, qui t'a nourri de la manne dans le désert. Yamsouf, la mer rouge, Kedela asot laem nissim, c'est pour leur faire des miracles. Sheneemar, vayar bayam beyamsouf vayacharev, que Dieu a décrété contre la mer qu'elle soit desséchée. Alors avant d'aborder le commentaire du Maharal à proprement parler, ça, c'est la citation du Midrash de la Meghilta. Vous voyez, nous avons deux systèmes très parallèles, très différents apparemment. Rabbi Eliezer, qui est un système péjoratif pour Israël. Le chemin, parce qu'ils ont besoin d'être fatigués. Le désert, d'être épuré. La mer rouge, d'être éprouvé. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, nous donne une explication de Shevar. Comme on dit, laudative, optimiste, plus que optimiste, de félicitations. Okay? C'est le chemin, c'est pour qu'ils y reçoivent la Torah, le désert, c'est pour qu'ils soient dans cette situation exceptionnelle d'être à l'abri du problème économique, plus haut que le niveau de l'homme condamné au travail pour pouvoir exister, un niveau de l'homme vraiment homme, qui peut consacrer son identité humaine aux tâches humaines et non pas aux tâches de survie biologique. La manne est toujours liée au Shabbat, nous reviendrons sur eux. C'est comme le jour du Shabbat où le problème économique nous est supprimé, de telle sorte que nous puissions être hommes, alors que le reste de la semaine, nous descendons au niveau de la bête qui est obligée d'exister pour se nourrir. Et alors que le Shabbat, nous sortons de ce problème économique et la capacité spirituelle de l'homme est délivrée. C'est la manne du désert. Yamsouf et la mer rouge, c'est pour faire pour eux des miracles, et non pas pour les éprouver, comme disait la première explication, pour les hébraïsants, vous remarquez que c'est le même mot en hébreu, les nassos, okay? Mettre à l'épreuve et faire des miracles, okay? Ici. Voilà. Alors, nous sommes déjà un peu aidés parce que nous avons vu précédemment, l'un va nous donner l'explication a priori, l'autre l'explication a posteriori. C'est clair, vous comprenez déjà, okay? A priori, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Puisqu'ils ont eu besoin, alors on va les faire passer par là. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Le chemin pour les fatiguer, etc. Okay? Tandis que Rabbi Yoshua nous parle a posteriori. Et puisque déjà c'était nécessaire, voilà ce que ça représente en réalité. Un tout autre niveau de valeur. Ça représente un apprentissage dur. Rabbi Eliezer avait mis l'accent sur cette dureté. Mais dont l'objectif est de restituer à Israël ce niveau d'identité qu'il n'a pas encore. Deuxième manière d'expliquer, c'est que l'explication de Rabbi Eliezer va pour la partie du peuple qui avait besoin de cela, et que l'explication de Rabbi Yoshua va pour la partie du peuple qui n'avait pas besoin de cela. Vous voyez donc le problème. Ça y est, c'est clair. Alors maintenant, nous pouvons entrer dans la manière dont le Maharal, en particulier, nous enseigne cela. Et je passerai assez rapidement sur les problèmes d'exégèse purement formels pour essayer de ne retenir avec vous que les idées principales. Mais pour ceux qui suivent l'hébreu, vous pouvez, s'il y a tel ou tel point qui vous intéresse, m'interroger pour savoir pourquoi le Maharal employait tel terme plutôt que tel. Biosé, explication de cela. Qui a Adam yeshlot chunot mipene gufo. C'est le principe suivant. L'homme a des tendances. Il a d'abord des tendances corporelles. Trunot mi pene gufo. Des tendances qui viennent des instincts, qui viennent de la vie du corps. Ce que j'ai appelé dans le système précédent, pour appeler nefesh, roach, neshama, le nefesh. Ou trunot mi pene nafsho. Et d'autres tendances qui viennent de sa vie psychique, plus haut que la vie purement biologique. Dans le vocabulaire d'hier, c'était le rouar. Bon, mais je vais suivre le vocabulaire du Maharal. Mais il y a des tendances de la vie biologique corporelle, mais il y a des tendances supérieures, de la vie spirituelle déjà. Utrunot mipene sikhlo, et des tendances du point de vue de son intelligence, de sa capacité de connaître. Et haya, Hashem idvarach, et Dieu, Rotze, a décidé les yagaham de les fatiguer dans le désert. Les baderer, les ahalish goufam, pour les améliorer au niveau de leur corps. Vous voyez, il y a ici l'idée d'une assaise de fatigue physique, de telle sorte qu'ils soient plus aptes à être Israël. Affaiblir, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit améliorer. Non, mais ça veut dire fatiguer, les ahalish, et affaiblir, en fait. Bien sûr, je pensais déjà Et vous voyez, le Maharal reviendra là-dessus très souvent dans beaucoup d'enseignements. Pour pouvoir donner la possibilité à la capacité spirituelle de l'homme de se développer, il faut fatiguer, restreindre les tendances corporelles. Si vous voulez, cette partie du peuple est encore trop corporel, je ne sais pas comment dire ça, matérialiste, pas dans le sens philosophique, mais dans le sens de jouissance. Okay? Alors, de telle sorte de les rendre aptes à la vie spirituelle, il faut les faire passer par le chemin du désert. Là, ils apprendront que l'essentiel, c'est la vie de l'esprit, et pas la vie du corps. Si ceux d'entre vous qui ont peut-être un peu connu les Bédouins, maintenant qu'on peut voyager chez eux dans le Negev ou dans le Sinaï, vous voyez, chaque fois que je lis ce genre de texte, je pense à eux. C'est-à-dire, les Bédouins ont une vie matérielle très frugale, et d'où une capacité spirituelle plus grande. Enfin, les Bédouins, les hommes du désert, de façon générale. Okay. Et malheureusement, le contact de la civilisation, par Israël d'ailleurs, de la civilisation occidentale, ils sont en train de les dénaturer. C'est dommage de les voir s'occidentaliser, mais je pense qu'il y aura une réaction de retour aux sources chez eux, parce que ce serait dommage à un monde sans les Bédouins. Je ne dis pas ça pour l'exotisme, mais pour la valeur humaine qu'ils représentent de ce point de vue-là. Il y a une espèce de... Vous savez qu'ils ne sont pas d'origine arabe, d'ailleurs, mais ce sont des Européens qui avait été, en particulier de Roumanie, qui il y a trois siècles à peu près, ont été, sont venus par foi chrétienne s'installer dans le désert du Sinaï, mais qui ont été arabisés, islamisés par la suite. Ils ont un type physique d'ailleurs différent. Et ils vous racontent même leur histoire. Je vous cite Asino. Et là, et donc c'est cette espèce de nécessité de passer par l'expérience de la vie de voyage, de telle sorte de devenir disponible à des valeurs par rapport auxquelles on ne serait pas disponible comme sédentaire, grosso modo. Okay. Ensuite, eh bien voilà, il le dit très clair, je reprends la phrase, il le dit très clairement, right, okay.
Une parenthèse là, par rapport plutôt, il y a l'éthique de la sortie, à travers ça, c'est très différent de l'éthique
Oui, oui,
je...
Vous avez raison. Vous avez raison. Okay. C'est-à-dire d'amoindrir les exigences du corps de telle sorte d'être plus disponible pour la vie de culture à proprement parler. Okay. Et il y a tout un chapitre dans le Rav Kook sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, d'ailleurs, il s'est fait complètement incendier par les autres rabbins. Et où il demandait d'urgence des programmes de tamlout, ça veut dire de gymnastique, dans les yeshivot. Okay? Parce que, il disait, quand un juif a retrouvé le contact avec sa terre, alors il faut qu'il fasse de la gymnastique. On continue. C'est lui qui disait, par exemple, que quand le Maccabi Tel Aviv joue le Shabbat contre Apoel, pas Mizrahi, mais Apoel Yerushalayim, les anges disent la Kedusha là-haut. Okay. Comment ça marche, on peut expliquer. Ah bon?
Ce soir.
Ah, c'est ce soir? Oui, je joue à Strasbourg. Contre qui?
Contre les Italiens.
C'est pas vrai. On le fait. Jérusalem contre Rome. T'es où? À Strasbourg.
Au-delà de la qualification, il est disponible.
Mais je sais, puisque j'ai voyagé avec des Israéliens, et d'ailleurs, comme il n'y avait pas de place dans l'avion direct, j'ai dû passer par Rome. Bizarre. J'ai voyagé avec des Israéliens qui ont économisé toute l'année pour venir à Strasbourg pour ce match-là.
Ouais,
on peut être mieux pour ça. Alors, revenons au problème. Et le Maharal dit ceci, Vaya, Hashem Yitzbarach rotze le yagam, et Dieu voulait les fatiguer baderer en chemin, le achalish gufam, pour amoindrir le tokef, si vous voulez, la force agressive de leurs exigences corporelles, à laquelle ils s'étaient habitués dans l'Égypte. Là, ils faisaient le sport deuxième manière. Qui a le gouffre Adam caché et la vatte noire. Parce que ce qui fatigue le corps, c'est le mouvement. Veratze Hashem Yitzbarach, ça y est, je parle comme à Strasbourg. Et Dieu a voulu les achlish, affaiblir à gouffre le corps, va derrière en chemin, que de l'achniao, pour le subjuguer. L'achniao, les canards, ça veut dire être vaincu. Okay? Et lorsque le corps est subjugué, il y a peut-être un autre mot plus précis. Bon, vous comprenez l'idée, lorsque le corps est, disons, restreint, à trunotaraot, les mauvaises tendances, les tendances à la jouissance, à proprement parler, mitmarikin minagou, se vide du corps. C'est-à-dire, c'est une ascèse corporelle. Donc, le voyage, c'est pour l'ascèse corporelle, de telle sorte d'affiner, d'épurer. Ce sont les étapes suivantes qui vont vers Harkar. Et ensuite, ce voyage se fait pas n'importe où, dans le désert. Kedele tsaref koach nafshi, pour épurer les forces psychiques. Amkabel aira vapahad, qui elles sont sensibles à la crainte et à la peur, ou à la peur et à la crainte. C'est-à-dire, le chemin, le voyage, c'est pour améliorer le corps. Et puis, la vie dans le désert, c'est pour tremper l'âme, le nefesh. Parce que le désert est source de crainte, d'inquiétude, c'est la vie inquiète. Et cela, c'est une thérapeutique pour épurer le nefesh. Être capable de résister à l'angoisse. Bishvilze, nichnar koach nefesh, et c'est par là que la force psychique est vaincue. Enfin, vaincue, elle est
convaincue.
Oui, c'est comme vous dites, mais elle est, si vous voulez, elle est transfigurée, je ne sais pas comment. Épurée.
Okay? Oui, quelque chose de péjoratif.
D'accord. D'accord. Ve'atchunot shebekoach anashim mitmarkim. Et les tendances psychiques s'adoucissent. Les marek. Ce sont des issourim. Issourim, ça veut dire le caractère pénible d'une épreuve. Mais c'était nécessaire à trois niveaux, nous dit le Midrash, dans l'explication du Maharal, parce que l'homme est un faisceau de tendances, d'une part corporelle, matérielle, biologique, d'autre part psychique, émotive, spirituelle, troisièmement intellectuelle et de l'ordre de la connaissance. Et à ces trois niveaux, il y avait nécessité d'un passage par le creuset. Voilà, vous avez compris l'idée générale du Maharal ici, ou Bayam, Bayam Souf, sur la mer Rouge, qu'aider les Nassot Koar Sikhli, pour mettre à l'épreuve leur capacité de connaissance, leur intelligence, comme conception du monde. Imhu Yahamin, de telle sorte de savoir s'il va être capable d'avoir la foi, Veikne Midata Emuna, et d'acquérir la vertu de la capacité de foi, Boit Barach, en Dieu, Shehu Yachol et Atsila Adam Mina Oivim, que Dieu est capable de sauver l'homme de ses ennemis. Et où est la difficulté pour Dieu de sauver l'homme de ses ennemis? En quoi consiste cette valeur de la foi? À quoi se rattache cette question que je viens de poser? C'est au problème de la louange de Dieu, que la Gemara étudie dans beaucoup de sources, dans beaucoup d'endroits, en disant ceci. Quand nous disons la louange de Dieu, en quoi il y a louange? Est-ce que c'est une entreprise possible pour l'homme de dire la louange de Dieu? Voici, et Maïmonide a beaucoup étudié ce problème dans le chapitre de Moré Nebuchim, qui est consacré à ce qu'il appelle la théorie des attributs négatifs. Si je dis que Dieu est grand, où est la louange? Est-ce que ça impliquerait qu'il y a la possibilité qu'il ne le soit pas? Vous comprenez, il y a une impossibilité dans cette entreprise de la louange de Dieu. Avoir foi, ça veut dire avoir confiance qu'une promesse de Dieu peut s'accomplir. Et Dieu en particulier fait la promesse qu'Israël serait sauvé de ses ennemis. Mais où est le mérite d'une telle foi? Et où est l'épaisseur d'importance, je ne sais pas comment dire, d'avoir confiance qu'une promesse de Dieu s'accomplit? C'est Dieu qui promet. Où est le mérite de cette foi? Vous avez compris la question? Qui pourrait répondre? En prenant l'exemple que vous voudrez, celui de la louange, celui de la foi. Par exemple, je vais prendre le problème à sa racine, la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est d'avoir confiance que la promesse que Dieu lui fait qu'il aura un enfant s'accomplira. Et où est le merveilleux d'une telle promesse? Des enfants, ça naît tous les jours. Or, toute la foi d'Israël est basée sur un épisode de la vie d'Abraham dont on s'est tellement habitué qu'on ne voit pas la difficulté. Mais où est le mérite de la foi d'Abraham? Dieu lui a dit, tu sais, tu auras un enfant. Et il croit. Mais où est le mérite de croire quand Dieu dit qu'il y aura un enfant? Tous les jours, il y a des enfants qui meurent.
À cause de l'âge d'Abraham.
Hein?
À cause de l'âge qu'avait Abraham au moment
de... Ça, on peut résoudre de façon très, très facile. Abraham n'avait pas d'enfant à cause de l'âge. Lorsque Abraham n'avait pas d'enfant, ce n'était pas à cause de l'âge, puisque même quand il était plus jeune, il n'avait pas d'enfant. Vous avez compris comment je vous ai répondu. Il y a, à propos de cette histoire de la foi d'Abraham, un verset qu'on ne lit pas toujours exactement comme on devrait. Lorsque l'ange s'est révélé à Sarah pour lui dire, eh bien, tu sais, Dieu s'est souvenu de toi, tu auras un enfant. Et alors, Sarah s'est mise à rire. Okay? Dans ce rire de Sarah, il y a tout un séminaire possible. Mais, Dieu demande à Abraham pourquoi elle a ri. Okay? Abraham était très gêné pour répondre. Et Dieu lui dit, Aïe, palais, mais Hachem d'abord. Est-ce que quelque chose est trop merveilleuse dans le sens de miracle pour Dieu? Haïpale, mais Hachem Dava. Pourquoi elle n'a pas cru? Elle a ri. Quand elle a dit, Dieu se moque de moi, Tzrok, Asali Elohim, Dieu m'a fait un rire, à mon âge, un enfant. Et Dieu lui dit, est-ce qu'un miracle est trop difficile pour Dieu? On ne comprend pas ce qui se passe là. Parce que par définition, si Dieu veut faire un miracle, rien n'est impossible. Avec lui, on ne sait jamais. Comment? Ça va un peu dans ce sens. Ça va un peu dans ce sens. Mais avant cela, je veux traduire le verset. Et le Midrash nous fait lire le verset tout à fait autrement, dans une mentalité hébraïque. Ça ne veut pas dire « Haït pas les aimés Hachem d'abord ». Est-ce qu'une chose est trop merveilleuse pour Dieu, sous-entendu qu'il ne puisse pas la faire? Ça va de soi. Okay? Ou alors de quoi on parle? D'un Dieu à qui les miracles seraient difficiles? Okay? En réalité, le verset veut dire tout à fait autre chose. Est-ce que Dieu a besoin de faire un miracle pour te donner un enfant? Oui, c'est tout à fait autre chose. « Haït pas les aimés Hachem d'abord ». Est-ce que tu attends un miracle alors que tu te dis « Un miracle, peut-être qu'il ne viendra pas ». Je te promets, je t'ai promis. Est-ce que tu crois que j'ai besoin d'un miracle pour accomplir ma promesse? Et vous voyez le problème. Alors, où est le mérite de la foi d'Abraham? C'est là qu'on revient au problème de la mutation religieuse au temps d'Abraham. Et nous reviendrons après à notre exemple ici. C'est que nous sommes dans un monothéisme total, absolu, cohérent. J'y reviens souvent. Dieu pour Israël, c'est le même qui est le Dieu pour les ennemis d'Israël. Il n'y en a pas deux. Un pour moi, un pour toi. C'est le même. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que lorsque Dieu doit agir pour moi, il doit agir contre lui, contre lui-même, lorsqu'il agit contre mes ennemis. Vous comprenez? S'il y avait un dualisme ou un pluralisme de divinité, chaque Dieu s'occupant de son peuple, c'est facile. On verra bien qui sera le plus fort. Et Gamarlo. C'est une question de difficulté de surmonter l'autre. Mais c'est le même Dieu qui est providence de tous les peuples. C'est là où est la difficulté. Parce que, et je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure, lorsque c'est une louange de dire que Dieu est grand, ça veut dire, explique la Gemara, qu'il est le seul à être capable d'être plus grand que lui-même. Ça, c'est une louange. Et je vais vous donner un exemple dans les textes. Et après, on prendra si vous voulez, pour illustrer cela encore d'autres exemples. Vous voyez quelle est l'expression qui est employée ici. De savoir si au bord de la mer Rouge, lorsqu'ils seront acculés, la mer devant, les Égyptiens et leurs ennemis derrière, ils seront capables d'avoir foi que Dieu est quand même capable de les sauver de leurs ennemis, les Égyptiens. Pourquoi? Où est la difficulté d'arriver à faire cette option de foi? C'est parce que nous savons que c'est le même Dieu qui dirige l'histoire de l'Égypte et l'histoire d'Israël. Et pour avoir une foi pareille, il faut vraiment un pari de la foi absolue. Okay. Si c'était Dieu d'Israël contre le Dieu de l'Égypte, à avoir foi dans mon Dieu contre le Dieu de l'autre, c'est l'histoire du match. Okay. Et pas plus. Okay. Mais il s'agit d'une toute autre nature de la foi. Que Dieu est capable de sauver les Hébreux, ses enfants, contre les Égyptiens, ses enfants. Et ça dépasse... toute stratégie, nous avait dit le Midrash de la Mechilta d'hier. Et Dieu leur dit, vous n'avez qu'une seule chose à faire, avancer. Vous vous rappelez de cela. Et en particulier, on étudie ce problème dans la lutte entre Jacob et l'ange. Lorsque Jacob est en conflit avec Ésaü, il est en conflit avec Dieu pour Ésaü. Là, il a dit... Non, ici, il n'y a pas ça. Il y a être sauvé de ses ennemis. On n'a pas parlé de la mort des ennemis. Okay. Regardez bien cela. Je vais un peu élargir votre question. Vous savez très bien que à Pessah, on ne dit pas le Hallel complet pendant les 6 derniers jours, les 7 dans la Gola, à cause de la mort des Égyptiens. Okay. Vous ne trouverez pas ça dans la liturgie égyptienne. Okay. Ça veut dire que tout se passe comme si à Pessah, on prend le deuil pour la mort des premiers-nés. Et, vous voyez, ça c'est une liturgie juive. Okay. Si ça avait été la chose inverse, on ne trouverait pas chez les goïms une mentalité pareille. Mais on va aller au passage de la mer Rouge. Le Midrash raconte qu'après le passage de la mer Rouge, quand Israël a vu qu'il était sauvé, miraculeusement, et puis ça s'est passé, comme vous dites, le prix à payer c'était la mort des Égyptiens, mais ça aurait pu se passer autrement. Donc si les Égyptiens ont été engloutis, c'est pour une affaire qui les concerne eux. Okay. Le problème ici pour Israël, c'est d'être sauvé de l'Égypte. Pas que l'Égypte soit perdue. Okay. Mais cependant, puisque l'Égypte a été perdue, on prend le deuil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est Hassid Choté. Okay? Prendre le deuil de ses ennemis. Je vais vous dire à quel point ça fait partie de l'esprit juif très profondément. Et ça nous coûte cher. Je vous donne un exemple qui m'intéresse personnellement. Vous allez deviner pourquoi. Nous, les juifs, nous passons notre temps avec une générosité spirituelle étonnante à prendre le nom de nos pires ennemis. Comment nous sommes séparés entre Ashkenazi et Sfaradi? Qu'est-ce que ça veut dire Ashkenazi? Allemand. Qu'est-ce que ça veut dire Sfaradi? Espagnol. Les pires ennemis du peuple juif. Et chaque fois qu'on demande à un juif, toi, qu'est-ce que tu es? Avec fierté et gloire, il répond, moi je suis Ashkenazi, moi je suis Sfaradi. Et moi j'ai deux problèmes, comme vous savez. Et je crois que ça sort de très profond de la mine. Et, mais ça nous coûte très cher. Parce que, à force d'avoir répété en Allemagne, nous sommes Allemands, nous sommes Allemands, nous sommes Allemands, les Allemands se sont énervés. Et en Espagne, la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on pourrait élargir tout cela. Et c'est exactement l'expression traditionnelle de chassid choté, un chassid fou. Il y a une tendance à la charité qui est une aberration. Je crois qu'il y a le juif errant et le juif aberrant. Mais en tout cas, ça nous a... Je ne veux pas ouvrir de parenthèse dans la parenthèse, mais j'arrive à ce qui se passe à propos du passage de la mer Rouge. Le Midrash raconte que quand les Hébreux ont été sauvés des Égyptiens par le passage de la mer Rouge, ils ont chanté. C'est la fameuse Shirat Hayam, le chant de la mer, que vous connaissez. Al Yashir Moshe Ovnei Israël, c'est le chant de gloire du salut en ce temps-là de la menace de disparition au moment de la disparition de la civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne a disparu, celle de ce temps-là, mais Israël en a été sauvé. L'accouchement a eu lieu. Et la marâtre est morte en couche, c'est son propre. Bon. Mais le Midrash dit qu'à ce moment-là, les anges ont voulu aussi chanter. Et Dieu leur dit, comment? Mes créatures sont englouties dans la mer et vous voulez chanter? Encore une fois, c'est un Midrash juif. Okay? Taisez-vous. Alors, le Rav Kook a posé la question sur ce Midrash. Oui, mais pourquoi il n'a pas fait taire les hommes en bas? Pourquoi il n'a pas fait taire les Hébreux? Et il a fait taire les anges. Alors, la réponse est la suivante. C'est que, à la racine de leur identité, l'identité égyptienne, en tant que ces créatures du Dieu unique, c'est Kadosh. En haut, on ne touche pas. Quand ça descend en bas, dans la réalité, c'est devenu mauvais. Alors, ce qui est devenu mauvais en bas, on annule. Mais la racine de cette identité, elle est sainte. Il ne faut pas la toucher. Les anges n'ont pas le droit de chanter quand l'Égypte en bas est détruite. Les hommes, oui, parce qu'en bas, l'Égypte, c'est mauvais. Mais en haut, pas. Vous voyez le problème? Et c'est ça que je voulais expliquer, pour vous répondre. Ce qui est demandé ici, ce n'est pas la destruction de l'Égypte, c'est le salut d'Israël. S'il y a eu destruction de l'Égypte, c'est qu'il y avait des problèmes avec les Égyptiens, avec le Dieu unique. C'est leur affaire avec leur Dieu, qui est le même que le nôtre, parce qu'il n'a pas d'autre. Okay? Mais vous voyez la difficulté de la foi. Croire que Dieu peut s'engager contre lui-même. C'est ça la Gdoula. Et j'y reviens. Mais puisque je vous ai cité cette... C'est la grandeur. Être plus grand que soi-même. Mais je vais quand même analyser cela, je crois que c'est important, un peu plus. En continuant l'enseignement du Rav Kook sur ce Midrash des Égyptiens. Et le Rav Kook a ajouté, ça nous renvoie à Pourim, mais notez bien cela, pour les Égyptiens c'est très clair, c'est le pshat du Midrash. Ça veut dire que dans le Shoresh de l'identité égyptienne, c'est une des créatures du Dieu unique. En haut, on ne touche pas. Quand on se reverra là-haut, on verra l'Égypte comme elle aurait dû être. Okay? Mais en bas, elle n'était pas comme en haut. En bas, on annule, mais pas en haut. En haut, on ne porte pas atteinte. Vous comprenez l'idée? Okay? Ça, c'est pour l'Égypte. Le Rav Kook ajoute qu'il y a un verset assez énigmatique concernant Amalek. Lorsque Dieu dit, tu effaceras le souvenir de Amalek, Mitachat Hashamayim, du dessous du ciel. Et vous voyez quel est l'enseignement ici. Pourquoi cette expression? Effacer le souvenir d'Amalek, Mitachat Hashamayim, dessous du ciel. Alors il ajoute, peut-être que ça veut dire aussi la même chose pour Amalek, que sous le ciel, il faut effacer, mais pas dans le ciel, même à Amalek. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous voyez jusqu'où ça va? Pour Amalek, avec un point d'interrogation, je vous le transmets, mais pour l'Égypte, c'est évident que c'est pour ça que Dieu a fait taire les anges quand ils voulaient chanter au moment du passage. Mais moi, ce qu'il faut mettre en évidence, et on ne le fait pas suffisamment souvent, et ce qui est, je cherche un mot ici, peut-être un adjectif, ce qui est admirable, si vous voulez, de la part de l'âme juive, qui se traduit dans le Midrash, c'est cette relation avec le problème d'autrui, autrui étant l'ennemi. Il y a une espèce d'attitude de générosité vraie qu'on ne trouve pas ailleurs. Je crois que c'est exceptionnel, ces Midrashim-là. Vous ne trouverez pas ces Midrash dans la, dans la tradition égyptienne. Vous comprenez le problème ? Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Alors il faut bien faire attention que c'est au niveau de la vie spirituelle, mais que au niveau de la vie réelle, c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle Hassid Choté. Okay ? Celui qui conclurait au niveau de la vie politique, à partir de cette donnée spirituelle, se met en danger. Ça veut dire, si je conclue de ces prémices, l'ennemi farouche, en haut c'est mon ami, donc en bas aussi, je me mets en danger. Est-ce que c'est clair ? Vous avez compris ? D'où vient cette espèce de raté de la conscience morale par rapport à la relation à l'ennemi chez les juifs ? Comme si très profondément il y avait cette conviction monothéiste que dans tous les cas, pire ennemi qu'il soit, jusqu'à Amalek, en haut c'est cachère. Alors en bas aussi, peut-être, c'est là qu'est le piège. Attendez, je n'ai pas fini d'expliquer cela. Je veux dire ceci, c'est que ça c'est la noblesse de la chassidut juive. Okay. Mais on ne mettra jamais un chassid comme ça à la tête du gouvernement. Parce que ce serait un suicide. C'est-à-dire, c'est ça la vraie chassidou. Mais le chassid, c'est dans la vie spirituelle. Et elle doit être entière. Mais pas au ministère de la guerre. Parce que la guerre, il faut la faire. Et vous voyez la différence, hein? Et la première leçon qui a été donnée par Dieu au chassidim, c'est Abraham. Quand Dieu a expliqué à Abraham ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorre. Alors Abraham était un vrai chassid. Il discute jusqu'au bout. Pour protéger qui ? Pour sauver qui ? Les pires crapules. Et Dieu lui donne une leçon. Il lui dit, tu vois, c'est comme ça qu'il faut croire, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Okay ? La chassidut d'Abraham, si elle est seule, sans la vertu de justice, qui viendra la compléter, la corriger, elle est dévastatrice. Parce que Abraham protège les criminels. Mais c'est ça être chassid. C'est ça la charité. La charité, c'est précisément protéger les criminels. Seulement, cette charité-là est dangereuse si on la laisse, si on lui donne le pouvoir politique. Elle est authentique au niveau spirituel. Et nous pouvons être fiers de nos chassidim vis-à-vis de nos ennemis. Mais à une condition, de ne pas leur donner le pouvoir. Est-ce que j'étais suffisamment clair ? Et d'ailleurs, ils le savent très bien. Parce qu'on leur proposait le pouvoir qu'ils ne voudraient pas. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est jamais l'Église qui a le pouvoir politique. Vous comprenez, dans le sermon, l'amour d'autrui doit aller jusqu'à l'amour des ennemis. Abraham. Okay ? Mais lorsqu'il y a la guerre aux frontières ou aux non-frontières, alors c'est d'autres forces d'Israël qui doivent être sur la frontière, pas les chassidim. Parce que ce serait un suicide. Ils nous rendraient tous juifs, suisses, libres. Bon.